Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur le texte de l'Évangile de dimanche prochain, au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Marc. C'est un épisode de transition qui fait suite à ce passage où Jésus enseigne en parabole, donnant l'explication à ceux qui s'approchent de lui et qui l'interrogent, et une nouvelle étape où l'on va voir la puissance active du royaume en Jésus, Jésus qui libère, Jésus qui guérit, Jésus qui donne les signes que le Seigneur est en train de visiter son peuple. Cet épisode de transition est la traversée du lac de Tibériade en barque par Jésus et ses disciples. Tâchons d'être attentifs aux circonstances météorologiques, une tempête, à la réaction des disciples et à la réaction de Jésus et de ce qu'elle implique. Je commence la lecture. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Jésus a donc enseigné pendant toute une journée, il peut y avoir une réelle fatigue de cette journée, mais c'est lui qui prend l'initiative de faire passer tout le monde sur l'autre rive. On prend donc Jésus tel qu'il est, dans l'état où il est, on monte dans la barque et d'autres barques les accompagnent. Survient alors cette violente tempête. Ce n'est pas quelque chose d'inédit, hein, sur le lac de Tibériade. Il y a de très forts coups de vent qui peuvent se lever assez rapidement. Et voilà, nous dit-on, que les vagues se jettent sur la barque. Il y a donc de véritables barques, la barque se remplit. Il y a une réalité de la tempête, et puis il y a une réalité aussi du danger de couler pour une barque qui se remplit. Ce que les disciples perçoivent, c'est que il est vraisemblablement trop dangereux ou sera trop difficile de nager jusqu'à la rive si jamais la barque coule à cause des vagues et de leur violence, et donc que tous risquent d'y laisser leur vie. Peut-être regrettent-ils d'avoir entamé cette traversée alors que le soir tombait. L'obscurité rajoute à la difficulté de pouvoir trouver une issue, de pouvoir se diriger vers la rive. Le texte nous décrit donc, nous le voyons, tout un ensemble d'éléments qui justifient une crainte, qui justifient une menace sur la vie de ceux qui sont dans la barque. Puis survient un détail tout à fait étonnant, lui, Jésus, dormait sur le coussin à l'arrière. Il semble que ni le roulis, ni peut-être l'eau des vagues qui entre dans la barque, ni les cris des disciples ne le dérangent, ne perturbent son sommeil. On peut se poser alors une question, quelle est la profondeur de ce sommeil? Quelle est la raison de la profondeur de ce sommeil? Est-ce que Jésus était vraiment complètement épuisé? Ou bien est-ce que Jésus a un calme intérieur tout particulier? Ou alors est-il simplement inconscient, inconscient du danger? Cette absence de réaction de Jésus est peut-être ce qui trouble le plus les disciples. En effet, les disciples qui le réveillent lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ». Ils ne disent pas « Maître, nous sommes perdus, sauve-nous ». Mais « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ». le plus terrible semble être qu'il ne s'en préoccupe pas, qu'il ne semble pas être touché par leur détresse. Son sommeil est perçu comme une indifférence à leur sort, et l'on perçoit que, s'ajoutant à la peur, il y a une amertume qui se déploie dans leur cœur. Il n'en a rien à faire de notre malheur. Nous percevons alors que la réaction des disciples peut être vraiment notre réaction quand nous sommes au cœur de l'épreuve. Nous avions le désir de laisser notre vie être menée par les paroles de Jésus et nous avons quitté la rive, nous nous sommes mis en chemin et voilà que nous nous retrouvons piégés par la tempête. Ça peut être la tempête de la situation familiale, ça peut être la tempête de la situation professionnelle, ça peut être la tempête de la situation physique, à cause de la maladie, à cause de problèmes psychologiques, de problèmes de dépression. C'est la tempête des difficultés relationnelles, c'est la tempête des difficultés pour avoir de quoi subsister. Et il nous semble que le Seigneur reste impassible, comme inconscient de ce qui se passe, comme sourd, aveugle, indifférent à ce qui nous arrive. Il y a même chez Marc le détail du coussin, voilà, la tête posée sur le coussin, il dort. Mais Seigneur, que fais-tu ? Il peut très bien y avoir dans notre cœur de la peur et aussi de l'amertume contre Jésus, comme il y en eut dans le cœur des disciples. Nous découvrons alors la réaction de Jésus. Elle est très sobre. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » C'est étonnant de contraste, car on a d'un côté, on pourrait dire, les vociférations du vent, les mouvements terribles de la mer d'un côté et de l'autre, et une sobriété d'action et de parole de Jésus. Il menace le vent, il dit à la mer, « Silence, tais-toi », et il se fit un grand calme. On ne voit donc pas Jésus lutter contre les éléments. Jésus ne vient pas à bout de la tempête après une épreuve de force, indécise, disputée. Il ordonne et il se fit un grand calme. D'une certaine manière, on a l'impression que le calme qui l'habitait, vu qu'il était capable de dormir sur un coussin au cœur même de la tempête, il semblerait que le calme qui l'habitait, il l'a extériorisé et il l'a imposé aux éléments déchaînés. Remarquons qu'il n'a pas détruit le vent ou la mer, il leur a imposé le calme. C'est intéressant à remarquer parce que lorsque nous sommes saisis par la peur, l'angoisse ou la crainte pour notre vie, nous voudrions parfois que soit annihilé ce qui représente pour nous une menace, qu'il disparaisse, qu'il soit anéanti. La puissance de Dieu ici n'a pas anéanti, mais elle a remis de l'ordre dans les comportements. Cela peut influencer notre réflexion et notre prière lorsque nous nous sentons dans une situation où nous avons envie de dire « c'est lui ou moi ». De nous souvenir de ce qu'a fait Jésus, remet de l'ordre dans les comportements, remet de l'ordre dans ses relations. Et puis Jésus s'adresse aux disciples « pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Cette remarque peut nous surprendre, nous bousculer, parce que on avait à en dire, mais il y avait des motifs d'être inquiets. La tempête était réelle, le désir de couler était réel. Assurément, mais il y avait une autre réalité. Jésus était là avec eux dans la barque. Il n'était pas ailleurs, il était avec eux dans cette barque, qui était agitée, qui semblait menacée, assurément, mais il était avec eux, et c'est lui qui leur avait demandé de passer de l'autre côté. N'avez-vous pas encore la foi ? La foi que nous sommes avec Dieu ? La foi qu'il est avec nous ? La foi qu'il est avec nous sur le chemin qu'il nous a invités à prendre ? Et c'est donc tout le contraire d'être perdu, être avec Dieu. Être avec Dieu, être auprès de Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est tout le contraire d'être perdu, quand bien même nous sommes secoués. Quand bien même nous sommes secoués, Si nous sommes avec le Christ, nous ne sommes pas perdus. Cela nous amène à purifier notre foi qui souvent pense que ce n'est que si tout va bien, que si tout est calme, que le Seigneur est avec nous, et que si au contraire c'est la tempête, ce doit être le signe que le Seigneur n'est pas là. Nous avons en ce passage l'affirmation de cette présence de Jésus au cœur de la tempête, présence qui peut être agaçante, il est vrai, en le voyant dormir alors que nous avons le sentiment d'être perdus, mais justement notre foi est appelée à aller jusque-là et à être capable de dire « Seigneur, si je suis avec toi, quand bien même la tempête gronde et menace, je ne suis pas perdu. » On voit que les disciples s'interrogent en se demandant « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ils s'étaient presque posé une même question plus tôt dans l'Évangile, au chapitre 1, le verset 27, en se demandant à la sortie de la synagogue de Capharnaüm, où il venait à la fois d'enseigner et de chasser un démon, il s'était dit à ce moment « Qu'est-ce que ceci ? » Il parle avec autorité, pas comme les scribes, et même les démons lui obéissent. Il y a une avancée, il se demandait « Qu'est-ce que ceci ?» Maintenant il se demande « Qui est-il celui-ci ? Qui est-il donc celui-ci ? » Il s'interroge sur l'identité de Jésus. Eh bien, cet évangile nous invite nous aussi à faire ce pas dans la foi. Qui est Jésus pour moi ? Est-ce que je ne le crois présent que quand tout va bien et que j'imagine qu'il s'est enfui dès que ça secouait un peu ? Ou est-ce que je le reconnais comme étant présent même jusqu'au cœur de la tempête et que donc il est le garant de mon salut ? Sa proximité est le garant de mon salut, quand bien même j'ai l'impression qu'il dort. Cet évangile est aussi l'occasion d'une prière toute particulière lorsque nous avons l'impression que nous allons être noyés. Nous pouvons faire mémoire de cette autorité du Christ et de sa parole à la fois sobre et puissante. Silence, tais-toi. Nous pouvons à la fois demander au Seigneur, comme il le fit sur le lac de Tibériade, de manifester sa puissance pour ramener au calme ces circonstances, ces événements, ces relations, ces tribulations professionnelles, familiales, économiques qui nous harassent. Nous pouvons demander que sa puissance se manifeste pour calmer la tempête, mais nous pouvons aussi et peut-être même surtout lui demander que ce silence tais-toi vienne toucher notre vie intérieure, vienne toucher notre détresse intérieure. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, que le calme intérieur qui t'habitait vienne m'habiter moi aussi. Partage ce calme qui te permettait de dormir, partage cette confiance dans la providence du Père, car je crois que tu es venu pour nous sauver. Que ta paix intérieure qui me rejoint me donne de traverser la tempête extérieure qui oppresse ma vie actuellement. Ainsi se termine l'enseignement de ce jour. Je vous souhaite de bons échanges.